France Inter.
Parce qu'on est dans un monde où il faudrait toujours accélérer, mais cette accélération permanente, c'est invivable. Même si on imaginait de traduire ça mathématiquement, on voit bien qu'à un moment, il y a une espèce d'impasse, quoi, c'est sûr. Plus on approche de cette impasse, plus il y en a qui accélèrent et plus il y en a qui s'interrogent.
Vivre moins vite, stopper cette course effrénée après le temps qui passe et nous avale, dans nos vies toujours plus pressées, plus pressantes, vivre plus doucement, on est nombreux à en rêver. Selon une étude de l'Observatoire Société et Consommation parue cette année, plus de la moitié des Français aspirent à ralentir le rythme de leur vie quotidienne et les deux tiers ont le sentiment que le monde change beaucoup trop vite. Dans le monde moderne, on entend souvent que rapidité rime avec efficacité, mais est-ce vraiment le cas ? Ne perdons-nous pas notre temps à essayer d'en gagner, parfois jusqu'à l'épuisement ? Dans ce reportage, on a décidé de prendre le temps, de vous emmener à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont choisi de changer de rythme, pour des raisons personnelles ou écologiques, parfois radicalement.
Je travaillais entre 60 et 70 heures par semaine. Comme j'avais déjà fait un burn-out, j'ai mis le stop à un moment donné, après une troisième ou quatrième crise de nerfs. Je me suis dit que c'était pas possible. Aujourd'hui, je suis à 25 heures par semaine sur 4 jours, et puis finalement ça marche. Et même quand on est très axé sur la performance, dans les entreprises notamment qui passent à la semaine de 4 jours, il y en a beaucoup qui augmentent leur performance quand ils passent à ça.
En 1668, il y a bien longtemps déjà, Jean de La Fontaine écrivait « Rien ne sert de courir » dans sa fable « Le lièvre et la tortue ». Dans Interception, on démarre aujourd'hui à toute petite vitesse, dans le village du Keilar, sur le plateau du Larzac, où se tient chaque été le festival Rock Castel, éloge du voyage lent. En chemin, on a rencontré Gaylor, 38 ans, jadis manager dans la restauration rapide. Il a construit une roulotte qu'il tracte à vélo en prenant tout son temps. La France qui ralentit, c'est un reportage de Cécile Bidot.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Donc nous voici devant la Rosalotte. La Rosalotte de Gaylor, c'est une roulotte de couleur marron et beige. Sa plaque d'immatriculation, c'est écrit « Rosalotte, reprendre le temps de vivre ». On va faire un petit peu le tour pour la découvrir. Donc ça ressemble vraiment à une roulotte de forain ou ce qu'on voyait dans les marchés dans le temps. Et il y a plein de petits messages autour, il y a des cartes postales... Il y a des petits mots que Gaylor a écrits. Il y a une petite sonnette pour rentrer dans la Rosalotte. Et c'est écrit « Ding-dong ».
Bonjour.
Bonjour, Gaylor.
Bienvenue. Vous voulez rentrer ?
Avec plaisir.
Allez, on rentre.
Alors, l'espace est petit, hein. On arrive, on s'assoit directement sur votre lit.
Là, en ce moment, c'est plutôt mon canapé.
C'est en mode canapé, d'accord.
C'est ça. Et puis, on est à la fois, c'est sûr, dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les toilettes.
Ça fait quelle surface ?
3,60 mètres carrés, c'est ça.
Très précis.
Ouais, quand il n'y en a pas beaucoup, chaque centimètre est important. Hein.
Vous êtes comment dans votre Rosalotte ? Vous vous sentez comment ?
Incroyablement bien. C'est un petit cocon. Et à chaque fois que je regarde par la fenêtre de... On va l'appeler comment, là ? La fenêtre du salon. Mais quand je regarde par cette petite fenêtre, mais je vois que c'est un vélo qui tire tout ça.
Ça pèse combien, tout ça ?
Au début, c'était 300 kilos. Depuis, elle a pris un peu de poids et on en est à 350.
Et vous tirez 350 kilos sans assistance électrique à la force des mollets ?
Eh oui, je roule à 5 km/h de moyenne. Dès qu'il y a 2-3% de dénivelé, boum, je tombe à 1 km/h, donc 500 mètres, une demi-heure. Reprendre le temps de vivre au rythme du cœur. C'est vraiment ce que je souhaite. Puisqu'en fait, souvent, on nous dit que le temps, c'est de l'argent. Et moi, j'aime bien plutôt dire, rappeler que c'est l'argent qui est du temps. C'est la monnaie qui est du temps humain transformé. Et je me suis dit, si je réduis mes charges et mes besoins financiers, ben, je récupère du temps. Et puis après, le déplacement, le musculaire, le corps. Et donc, au rythme du cœur, au rythme de la respiration... rien quand on fait ça, il y a un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, de me réapproprier mon temps. Ça me permet en fait d'aller au plus profond de mes valeurs, de mes idées, de mes projets, et de voir qu'en fait il y a plein d'autres copains et copines qui ont envie de jouer avec moi, quoi.
On ferme la porte.
Et là, je vais allumer le gyrophare. Ça me permet de signaler que je suis un véhicule très lent. Vas-y, léger devant. Hop, au poste de conduite.
Alors donc là, Geller, vous avez pris place sur votre vélo, couché avec cette espèce de petit transat.
C'est exactement ce que je dis, c'est un transat à pédale pour moi. Limite, dans les côtes, parfois je fais la sieste, mais bon, je pédale quand même. Ok, c'est parti.
Et donc en fait, la Rosalotte va à notre vitesse. Hein. Nous, on marche à côté et on peut la suivre sans difficulté. Et alors, vous roulez à quelle vitesse là, à peu près ?
Là, je suis à 1 km/h, 1,5.
Parce que ça grimpe ?
Eh oui.
Avec courage.
Vous ne passez pas inaperçu, c'est vrai que quand on vous voit circuler comme ça avec votre vélo et votre roulotte, ça fait réagir.
Tout le temps. C'est incroyable. C'est des pouces en l'air, des sourires, des bouches ouvertes, des bouches bées, quoi. Puis comme il n'y a pas de carrosserie, on retrouve directement le contact avec l'humain. Donc c'est ça qui est chouette aussi.
Hop là.
Salut, voilà.
C'est vrai que c'est tellement rare de voir un engin, on va l'appeler comme ça, qui circule à toute petite vitesse. C'est tellement décalé presque par rapport à nos vies.
Mais en fait, on se crée tellement de choses pour gagner du temps. Et tout le monde me dit mais on n'a pas le temps. Alors qu'on a tellement d'outils aujourd'hui pour aller plus vite. Parfois, il y en a certains qui s'amusent à me dire « Oh bah t'es pas arrivé ». Je leur dis juste « Je suis là où je dois être, enfin, je suis déjà arrivé là, donc c'est bon ». Je réfléchis à chaque déplacement. Avant de demander de ralentir, je pense qu'il est intéressant de se demander pourquoi je me déplace autant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Ralentir dans le style de vie que j'avais avant ou ralentir dans le style de vie qu'on a dans la majorité ? Je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est hyper compliqué.
Donc ça nécessite quand même un changement de vie assez radical.
Ah bah c'est sûr que le style de vie Rosalotte, c'est très radical. Des fois je roule 3 heures, des fois 6 heures dans la journée, des fois 10, ça dépend. Mais comme j'ai décidé de prendre le temps, je suis pas pressé quoi. La notion de voyage, de village en village, je capte un peu l'âme en fait, des différents lieux quoi. Et mais peut-être que tu veux te rendre compte de l'intérieur quand on roule, voir quand ça se déplace.
Pour ressentir comment on vit quand on voyage lentement.
Si tu veux, ouais, que tu me dises comment ça se passe derrière, je sais pas moi.
Donc là, je vais avoir le privilège de monter dans la Rosalotte et de tester le voyage lent. Et je m'installe là-bas.
Ouais, voilà. Là, je pense que
c'est bien.
Ouais, là, t'es bien.
Ok, ah ouais, je confirme, je suis bien.
Bienvenue chez moi.
Merci, et ben donc je vous laisse pédaler pendant que moi je profite du paysage.
Allez, ça marche, entendu.
À tout de suite. Allez, c'est reparti. Donc là j'ai pris place à l'intérieur de la Rosalotte, de cette roulotte. Et Gaylor a démarré. On sent les roues en dessous et on sent que ça roule tout doucement, tout tranquillement. On entend que ça grince un petit peu. Je crois qu'il y a un camion qui nous dépasse. Je pense qu'à pied, j'irai plus vite. Mais c'est pas du tout la même sensation. Je remarque qu'il n'y a pas d'horloge dans la Rosalotte. Mais c'est plutôt agréable d'oublier le temps qui passe. Ça y est. La Rosalotte s'est arrêtée. Je vais pouvoir descendre. Et ben voilà.
Comment ça s'est passé ?
Merci pour cette promenade dans la Rosalotte. C'était très agréable, très doux, très apaisant, très apaisé. Et avec le roulis, Ça fait presque une sensation de bateau.
Mmh, ouais. Ok.
Très sympathique. Merci.
Merci.
Donc là, on est en train d'arriver au Kela. Il n'y a plus que quelques centaines de mètres à parcourir pour ce festival Rock Castel.
Ça fait 20 ans qu'il existe, ce festival. C'est la 22e édition. Ça fait plus de 15 ans sur le thème éloge du voyageur. Hop.
Donc on pénètre à pied sur le site, l'un des sites du festival Rock Castel. Les panneaux de signalisation nous disent « ralentir festival ». Donc là, on voit les festivaliers qui s'agitent déjà lentement.
Est-ce que je peux avoir un café, s'il te plaît ?
Oui. Donc là, on est avec Clémentine Couette, qui est la coordinatrice du festival Rock Castel. C'est vrai qu'on voit beaucoup de monde arriver à vélo, arriver avec des mobilités douces, etc. Et je ne sais pas si depuis 7 ans que vous êtes là, vous avez vu une évolution. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont adeptes de ce voyage lent ou qui ont envie de franchir le pas ?
Oui, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, notamment suite au Covid, où du coup on pouvait plus se déplacer comme on voulait. Et du coup, ça a un peu forcé les gens à réfléchir autrement et du coup à voir le déplacement plus en local.
Vous parleriez de tendance carrément ?
Un
peu de mode ?
De mode, ouais, je pense. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un petit réseau, on va dire. Et puis que là, c'est vraiment en train de se démocratiser. De plus en plus, on voit qu'il y a plus de personnes qui sont sensibles à ce sujet-là, beaucoup plus de personnes qui pratiquent le voyage lent, beaucoup de comment vivre et voyager autrement. Parce que c'est aussi, pour certains, une manière de vivre, le voyage lent. C'est pas que du voyage. Il y en a qui sont vraiment devenus nomades. Après, on peut s'interroger sur est-ce que c'est être en marge de la société, être complètement déconnecté. Enfin, voilà. Je n'ai pas forcément les réponses à ça, mais en tout cas, ça peut poser des questions.
Eh bien, on va rester sur une question. Ça me plaît bien.
D'accord, très bien.
Merci Clémentine.
Avec plaisir.
Oui, on essaie de ne pas la rater. Vite, 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 il y a la course de la lenteur. C'est beau cette phrase.
Donc c'est tout l'inverse d'une course traditionnelle. Les participants sont à vélo et c'est celui qui va le plus lentement qui gagne. Le plus rapide a perdu.
Ok, nous avons Lucinda contre Orson. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1, top, c'est parti !
Allez Lucinda,
cours
vite !
Voilà, Lucinda, elle avance pas.
Être désigné champion de la lenteur et gagner la course du temps. Voilà qui paraît antinomique et ne l'est pas. Une prise de conscience écologique pousse beaucoup d'entre nous à opter pour des mobilités douces, vélo, trottinette, mais les trois quarts des trajets se font encore en voiture, entre la maison et le boulot. Le travail, c'est l'autre grand domaine où notre rapport au temps est en pleine mutation. Plus d'une personne sur deux estime manquer de temps pour effectuer les tâches demandées. Alors, certains patrons agissent. Cécile Bidot est allée à la rencontre de Laure Daudier, fondatrice de Maslow Boîte. Elle aide les entrepreneurs à calmer le rythme. À l'heure du petit déjeuner, nous arrivons chez elle, à Mérignac, tout près de Bordeaux.
Interception sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Allez-y, rentrez.
On peut se permettre ?
Oui, allez-y, allez-y. Hop, allez-y. Bienvenue.
Donc là, on est chez vous.
Ouais.
Il est 7h45.
7h45.
Il y a les deux enfants, votre mari.
C'est ça.
C'est quoi le programme, Laure, pour aujourd'hui ?
Le programme pour aujourd'hui, donc on va déposer les enfants. Et ce matin, je vais animer un atelier pour d'autres indépendantes. En l'occurrence, ce sont trois femmes qui vont venir amener leurs problématiques du moment et qui vont rechercher des recommandations sous le prisme du slowprenariat. Après, elles ont différentes problématiques qu'on va voir, qu'on va découvrir tout à l'heure.
Et ben là-bas, vous nous expliquerez ce que c'est que le slowprenariat.
Ouais.
On va peut-être pas vous mettre en retard.
Non, mais là, c'est bon, j'ai fini mon petit déj, et puis après, on va finir les préparations. Un petit show.
I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon.
Arrivé. Et bienvenue au cocon, Donc le cocon, c'est le coworking dans lequel je suis, qui est adossé à la crèche. C'est un chouette endroit pour travailler.
Donc un coworking, c'est un espace collectif de travail. Ouais, c'est là que vous louez des bureaux quand vous en avez besoin.
C'est ça. Mais vous pouvez rentrer si vous voulez, les filles. Donc je m'appelle Laure Daudier, je suis la fondatrice de Maslow Boîte, qui est une entreprise que j'ai montée en 2021 pour accompagner les indépendants et les entrepreneurs au slowprenariat.
Alors c'est quoi le slowprenariat ?
Eh bien, alors pour l'expliquer le plus simplement possible, c'est entreprendre en faisant moins et mieux. La majeure différence par rapport aux autres modèles que sont l'entrepreneuriat traditionnel et start-up, c'est que là où ces deux modèles vont demander à ce qu'on s'adapte à leurs exigences, à leurs méthodes et qu'on fasse passer l'entreprise en priorité, l'entité qui est l'entreprise en priorité pour faire du profit et de la croissance. Le slowprenariat, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir de la personne qui entreprend, de l'équipe s'il y a une équipe, et on va construire une entreprise autour de ça. Et ce qui prime, c'est le bien-être de l'humain, même si du coup la croissance va être plus douce, elle va peut-être pas être là tous les ans, on est quand même rentable, hein. C'est pas une question d'être en dessous des seuils de rentabilité, mais on va pas chercher à faire de la croissance à tout prix, et surtout pas au détriment des humains qui sont dans l'entreprise ou qui travaillent autour de l'entreprise, que ce soit les clients, que ce soit les partenaires, etc.
C'est quoi votre histoire, vous, avec le monde du travail ? Qu'est-ce qui vous a amené à développer ça ?
Alors, j'ai toujours eu pas mal d'ambition, je pense, mais j'étais convaincue que c'était forcément au prix de certains sacrifices. Et quand j'étais salariée, à vouloir adopter ce modèle-là et répondre aux exigences de mon management, j'ai fait un burn-out de manière assez, malheureusement aujourd'hui, assez classique.
Vous travaillez quelle quantité d'heures ?
Je travaillais entre 60 et 70 heures par semaine et surtout je travaillais avec des méthodes qui me convenaient pas. Et d'y aller la boule au ventre comme ça sur la durée, à un moment donné, ça veut plus, quoi. Et puis finalement, je prends la décision de partir de l'agence à ce moment-là et de me mettre à mon compte quelques mois plus tard pour pouvoir retrouver un rythme de travail plus bas. Sauf que, en rentrant dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, assez vite, je me rends compte que on me parle d'envisager l'entreprise d'une certaine manière et d'être toujours dans la performance. Et donc, moi, je me recalque là-dessus. Et donc, en 2019, j'ai senti que ma santé mentale était de nouveau vraiment très, très fragile parce que j'essayais d'être Beyoncé, en fait. Mais sans l'armée d'assistants qu'il y a autour. Donc, cette image, en fait, de la Wonder Woman qui est capable d'être une entrepreneure accomplie, une mère parfaite. Et comme j'avais déjà fait un burn-out, j'ai mis le stop à un moment donné. Après une troisième ou quatrième crise de nerfs, je me suis dit que c'était pas possible, qu'il fallait que j'arrive à baisser drastiquement mon niveau de stress. J'ai refusé aussi certains clients, ce qui n'est pas facile de refuser du chiffre d'affaires, surtout quand on est dans les premiers temps. Et sauf que c'est exactement à ce moment-là que mon business a commencé à décoller. Parce que, en fait, c'était beaucoup plus simple, je faisais les choses de manière beaucoup plus fluide, et donc il y avait une meilleure qualité. Fin 2020, j'ai décidé d'arrêter mon activité de freelance pour me consacrer pleinement à accompagner d'autres indépendants à ce mode de travail-là.
Est-ce que vous avez comparé le temps de travail quand vous étiez salarié et le temps de travail aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, je suis à 25 heures par semaine sur 4 jours. Donc mon temps de travail, moi, c'est un non négociable. C'est-à-dire que c'est vraiment le critère dans lequel il faut que les projets se développent. Donc c'est en fonction du temps que j'ai. Et puis finalement, ça marche. Donc ça permet d'accepter beaucoup plus que finalement on a le droit de travailler dans plus de confort, avec moins de stress, et que ça n'empêche pas pour autant de réussir.
Vous diriez qu'un chef d'entreprise qui a lui-même travaillé à ralentir son rythme peut ensuite transmettre ça à ses salariés et générer plus de bien-être au travail ?
Oui. Oui, parce que je crois que quand on l'a expérimenté pour soi et qu'on se rend compte qu'on peut avoir à la fois plus du mieux-être, être beaucoup moins stressé et que ça n'empêche absolument pas d'avoir des résultats, de faire de la qualité, de satisfaire les clients. Et quand on a expérimenté ça, c'est compliqué de demander à d'autres personnes de continuer à cravacher, quoi. Déjà humainement, parce que ce n'est pas juste en soi. Et même quand on est très axé sur la performance, on se rend compte que finalement, on peut avoir les deux. Et il y a même dans les entreprises, notamment, qui passent à la semaine de 4 jours, il y en a beaucoup qui augmentent leur performance quand ils passent à ça.
T'as manqué du temps, alors ?
Ah, le temps, ça, c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Temps, 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 temps.
15% des salariés sont en détresse psychologique élevée, selon le 13e baromètre du cabinet Empreinte Humaine, présenté à la rentrée à Paris.
Donc Christophe Nguyen, je suis psychologue du travail et cofondateur du cabinet Empreinte Humaine. On s'occupe de la question de la santé mentale au travail, de la sécurité psychologique au travail, et on accompagne les entreprises et leurs salariés, leurs managers, à mettre en œuvre des actions de prévention pour améliorer la question du bien-être psychologique.
La question du temps, elle est fondamentale. Et vous constatez qu'effectivement, beaucoup de salariés estiment ne pas avoir le temps de faire les tâches qui leur sont assignées.
Dans les entreprises, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles ont du mal à appréhender ce sujet-là. Elles ont du mal à le mesurer, elles ont du mal à le définir, elles ont du mal à le piloter. C'est un peu ce qu'on entend, fait toujours plus avec moins. Et c'est cette idée que cette limite de travail, c'est chacun qui doit se la donner, hein, de se mettre des limites. On voit que le droit à la déconnexion, il y en a un sur deux qui dit qu'il est réellement appliqué. Mais parce qu'aussi dans la réalité, comme on fait face à une charge de travail, la moitié des gens disent aussi « je ne peux pas dire non » alors que je suis déjà débordé finalement. Donc il y a cette idée un peu que c'est un peu infini et que la limite, elle est où? Est-ce que c'est la limite de la santé des gens? Est-ce que c'est la limite de leur épuisement? Et je pense que l'enjeu, il est là-dessus, d'agir dans le quotidien des gens pour qui voient que finalement tous les jours ils peuvent se sentir avancés dans ce qu'ils font, qu'à la fin de cette journée ils se disent j'ai été actif, mais finalement je peux dire ce que j'ai pu faire, et pas juste j'ai été actif parce que j'étais débordé, je répondais à des urgences à longueur de temps, j'étais en réunion, mais finalement j'ai couru partout, mais ça n'a pas eu d'efficacité. Et je pense que c'est le vrai quelque part compromis au point d'attente qu'on pourrait avoir entre les directions d'entreprises qui veulent agir sur ces sujets et des salariés qui veulent aller mieux, et donc de travailler aussi dans la prévention autour de ces aspects-là. On est vraiment sur des sujets de conditions de travail aujourd'hui.
Merci beaucoup Christophe Nguyen.
Alors ralentir pour notre santé mentale, mais aussi pour celle de la planète, changer de rythme est devenu une nécessité écologique. C'est l'idée développée par l'économiste de la décroissance Timothée Parik dans son livre « Ralentir ou périr ». Nous allons le voir chez lui, à Anglette, dans le Pays Basque. Là, nous sommes à la gare Montparnasse pour prendre le train à grande vitesse entre Paris et Biarritz. Alors, parcourir 800 km en 4 heures pour parler de ralentissement, c'est sans doute un paradoxe. En tout cas, on y va.
Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord du TGV à destination de Hendaye. Merci aux personnes accompagnant les voyageurs de bien vouloir descendre.
Soyez attentifs à vos bagages lors des arrêts intermédiaires. L'équipage du TGV nous souhaite une agréable journée au voyage qui descend en gare de Biarritz.
We are arriving at destination. Please make sure you take all your belongings with you.
Oui, bonjour, c'est Cécile Villot de France Inter.
Vous êtes devant le portail vert, là?
Ouais, exactement.
Bah, j'arrive.
Ok, à tout de suite. Ah bah le voilà, là, il vient vers nous. Donc les cheveux en pétard, un peu, on dirait un peu Albert Einstein, quelque part. La moustache, t-shirt noir, short, nu-pied. Bonjour.
Ça va?
Bah ouais, et vous?
Ouais. Enchanté.
Enchanté, Cécile.
Bah, Timothée, bonjour.
Merci de nous accueillir.
Bah, avec plaisir.
Dans ce cadre qui est pas mal du tout.
Bah, je pense qu'ici on a les plus belles vagues de France, j'oserais dire. J'espère que je serai pas cité là-dessus. Donc je suis venu ici pour surfer, je suis jamais reparti. Donc ça c'est mon petit rituel que j'essaye de ne jamais sacrifier. Aller surfer une fois par jour. C'était un petit peu ma règle, une fois, j'ai fait une thèse absolument effroyable en termes de relations au travail où je passais parfois 10 heures à écrire par jour pendant presque 4 ans. Et c'était devenu un rythme tellement normal que même le jour où je ne passais que 8 heures à écrire, j'avais une culpabilité folle. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cet escargot? Qu'est-ce que je dois être malade? Et donc en sortant de ma thèse, je me suis dit, bon, il va falloir que je me reconstruise quand même une relation au travail qui soit plus paisible, surtout que ma thèse, elle était quand même sur le sujet de la décroissance. Donc je me dis, bon, c'est marrant d'être expert de ça en théorie, mais en pratique, de ne pas le faire. passer par là, on a une petite porte qui vient directement à la plage. Alors je m'appelle Timothée Paric, j'ai 35 ans, je suis chercheur en économie écologique et spécialiste de la décroissance. Je partage mon temps entre ma vie à Anglette au Pays Basque et mes travaux de chercheur à Lausanne. Donc voilà, ça fait 8 heures de train.
Jamais l'avion.
Voilà, la dernière fois que j'ai pris l'avion, ça devait être 2010, quand j'avais fait un stage de fin d'études dans le Colorado aux États-Unis.
Votre livre, il s'appelle donc « Ralentir ou périr ». Posé comme ça, le débat, ça nous donne l'impression qu'on n'a pas le choix, en fait. Vous nous laissez pas le choix.
Alors malheureusement, c'est le monde qui nous laisse pas le choix. On dépasse, en fait, notre empreinte écologique dépasse la biocapacité des écosystèmes. En fait, on se dit soit on reste en déficit écologique, et au bout d'un moment, ça va craquer. Donc ça, c'est le périr. C'est pas mourir. Mourir, c'est la fin d'un cycle naturel. Périr, c'est mourir comme un con. Dans une situation où on aurait pu l'éviter. Là, c'est ce qui nous arrive. On aurait pu faire transition, ça aurait pris quelques décennies, mais on aurait eu le temps de le faire de manière assez lente et donc démocratique et construire cette économie du bien-être beaucoup plus petite et beaucoup plus lente. On ne l'a pas fait. On a fait le contraire. On a exacerbé le dépassement écologique. Et donc aujourd'hui, pour ne pas périr, il faut ralentir. Mon hypothèse de base, c'est qu'aujourd'hui, on a un dépassement écologique qui est tellement important qu'il va falloir arrêter tellement de choses, substituer, améliorer bien sûr en même temps, que l'économie dans son ensemble va ralentir. Donc c'est pour ça que c'est, on parle de décroissance dans le sens où c'est le contraire de la croissance. Moi, la décroissance, j'utilise vraiment ça comme un terme de transition, c'est un terme de trajet. On va décider que cette quantité de biens et services, ce volume d'activité économique, ce nombre d'heures de travail, c'est assez. Et ça, moi, c'est l'hypothèse que j'ai défendue dans mon travail, ça nous permettrait d'avoir un mode de vie qui serait beaucoup plus lent. Et un mode de vie beaucoup plus lent, c'est pas un loisir qui est vide de sens, c'est pour les gens de retrouver en fait un temps autonome.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que si la société le voulait bien, ce serait pas l'apanage de quelques privilégiés de pouvoir prendre le temps.
Si aujourd'hui on regarde, c'est possible pour qui de ralentir, de travailler moins? C'est possible pour ceux qui ont en fait assez d'argent pour pouvoir satisfaire leurs besoins en travaillant à temps partiel. Donc si j'ai un énorme salaire et que même à temps partiel je gagne 2, 3, 4 fois le SMIC, bien sûr, je peux me permettre de moins travailler. Donc là on voit que la capacité aujourd'hui à ralentir, elle est très dépendante du pouvoir d'achat, qui est très dépendante des inégalités de patrimoine, de revenus et de salaire. Et on voit bien quand même qu'on a un stock de richesse qui est phénoménal, qui suffirait, en fait, s'il était mieux réparti, à démocratiser ce pouvoir de ralentissement. Et c'est là où on voit apparaître un peu cette belle coïncidence de dire « Ah bah tiens, si ralentir, c'était pas seulement une façon de baisser notre empreinte écologique, ce qui va être nécessaire de toute manière, mais aussi une façon d'inventer, on l'a vu, une nouvelle relation au travail et même un nouveau système économique qui puisse être centré sur la libération du temps libre et la production et la consommation qualitative, plutôt que sur le vieil indicateur, en fait, le vieux contour du PIB.
La dernière page de votre livre, vous dites « Allez, j'arrête ici parce que il faut que j'aille faire la sieste ». C'est plus qu'un clin d'œil.
C'est plus qu'un clin d'œil. Moi, je suis un fervent défenseur de la sieste que j'applique tous les jours. C'est aussi quelque chose que je ne compromets jamais. Et donc, très souvent, même quand je suis invité à un événement, j'ai pas eu le temps de faire ma sieste parce que j'en avais un le matin ou l'après-midi, je demande où est-ce que je peux faire ma sieste. Et les gens sont toujours un petit peu en panique, du genre, c'est qui cet enfant de 6 ans là qui veut faire une sieste? Nous, on est une entreprise de gens sérieux, d'adultes, on n'a pas de salle de sieste. La sieste, non seulement comme symbole de bien-être personnel, de aussi moment créatif, la sieste, c'est pas forcément dormir, c'est un moment en fait de déconnexion avec le monde réel, de dire, j'ai envie d'avoir 15 minutes où je suis dans ma tête, où je me mets sur mon hamac et où je vais buller. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très subversif. La sieste, c'est une véritable sabotage de l'intérieur du capitalisme. C'est mettre des petits grains de sable dans le système, où en fait, c'est un moment où on refuse d'être productif. La sieste, c'est un moment de valeur intrinsèque. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, pour rigoler, à chaque fois parler de la sieste intérieure brute comme indicateur pour remplacer le produit intérieur brut, le PIB. De se dire, d'imaginer des gouvernements qui se feraient compétition pendant les campagnes présidentielles en disant « Moi, je vais augmenter la durée quotidienne de la sieste. » En fait, on pourrait avoir cette espèce de compétition qu'on a à chaque présidentielle autour du PIB et du pouvoir d'achat.
mais sur quelque chose d'autre qui serait notre capacité collective à dégager du temps libre.
Et on n'est pas un peu en train d'empiéter sur ce temps-là ?
Ah là, c'est vrai, vous arrivez dangereusement autour de l'heure de la sieste. Si je m'endors en plein entretien, il faudra attendre 18 minutes pour que ça continue après.
Bon, ben on va mettre un terme à l'entretien, comme ça au moins on vous laisse aller faire la sieste.
Et ben c'est parfait.
Cécile Bidot laisse Timothée Parik se reposer 18 minutes. C'est le temps de pause idéal pour se régénérer. Selon des chercheurs américains de la NASA, une vingtaine de minutes de sieste améliore les performances de plus de 30%. En France, en 2024, il y a pourtant très peu d'entreprises qui autorisent la sieste. Depuis des siècles, vivre en prenant son temps est souvent assimilé à de la paresse, pécheresse. Dans son roman « La lenteur », Milan Kundera pose cette question. Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu ? Où sont-ils les flâneurs d'antan ? Dans le magazine Interception, Cécile Bidot continue à balader son micro sans courir.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Notre voyage lent aujourd'hui nous emmène à La Rochelle. Nous sommes dans le port de La Rochelle et juste en face, nous attend Laurent Vidal, qui est un historien, un chercheur qui travaille ici à La Rochelle, qui a écrit le livre « Les hommes lents ». Il nous a donné rendez-vous sur l'allée Paul Virilio. Un petit clin d'œil puisque Paul Virilio, c'est un urbaniste, un philosophe, un théoricien de la vitesse et du rythme. Nous allons aller à la rencontre de Laurent Vidal sans se presser, on y va tranquillement. Bonjour.
Bonjour.
On va se rendre à votre bureau à l'université, vous voulez bien ?
Avec plaisir.
On sera peut-être à l'abri du vent, on sera mieux. Le monde d'aujourd'hui, effectivement, il prône la rapidité et il fait de la rapidité un synonyme d'efficacité et de la lenteur un synonyme d'inefficacité. Comment ça s'explique, ça, historiquement parlant ?
Alors, ça a été tout le défi de cette histoire, de voir comment se construit cette narration. Et cette narration, elle est complètement liée à la naissance de la modernité en tout cas dans l'Europe chrétienne, plus ou moins au début du XVe siècle, lorsque deux discours vont se rencontrer. Un discours qui est préparé de longue date par le christianisme autour des péchés capitaux, il y a l'un de ces péché qui est la paresse. Et la paresse est définie entre autres par un certain nombre d'attitudes, dont la lenteur. Ne pas accomplir les choses dans le temps voulu, c'est aller à l'encontre du message de Dieu. Et le deuxième discours qui se met en place en parallèle, c'est le discours du capitalisme marchand qui se construit à cette époque-là. Et ce capitalisme marchand dit que pour être efficace dans les affaires, il faut être prompt. Il parle de la promptitudo. Alors voilà que dans la sphère économique, on valorise la promptitudo, et dans la sphère religieuse, eh bien, il faut également ne pas gaspiller le temps.
Et cette stigmatisation de la lenteur, en fait, elle ne s'est jamais démentie depuis. On pourrait presque dire qu'elle est à son paroxysme aujourd'hui.
Elle se réinvente à chaque, à chaque contexte. La lenteur, c'est l'ancien monde. Et aujourd'hui, eh bien, on reprend ces mêmes modèles qui consistent à considérer que ceux qui ne vont pas au rythme imposé par la société, les événements, le travail, etc., sont inadaptés à la vie sociale.
Aujourd'hui, alors je sais que ce n'est pas forcément le travail de l'historien, mais est-ce que vous pensez que les lents ont une carte à jouer ? Est-ce que ralentir, c'est résister quelque part ?
Mais aujourd'hui, il y a besoin de ralentir, parce que notre tissu temporel est complètement décousu, et on a besoin de cette lenteur pour le recoudre un peu.
Ça
supersonic speed. Summer lama, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made it rubber. So that anything you say is take a shaking off of me and it'll wound you. And devastating, more than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can see I fell off. They'll be celebrating, cause I know the way to get them motivated. I make elevating music, you make elevator music.
Nous allons maintenant aller à la rencontre d'un de ces hommes lents, en tout cas de quelqu'un qui nous invite à ralentir le rythme en termes de communication. Il s'agit de Vincent Berthelot. Il prend le contre-pied total de toutes nos messageries instantanées, nos emails. Il a créé en 2020 l'agence des facteurs humains qui livre des courriers, je cite, « importants mais pas urgents », des vraies lettres écrites à la main qu'il délivre en main propre, au gré de ses déplacements à vélo. Et aujourd'hui, c'est à Nantes qu'il a du courrier à déposer. On va aller à sa rencontre. Je le vois là-bas sur son vélo couché, il nous attend. Donc évidemment, pour suivre un facteur à vélo, eh ben, on a pris nous-mêmes des vélos. Je sais pas si ce sera peut-être un peu périlleux. On va voir. En route. Vous avez un casque jaune. Et derrière vous, il y a des sacoches. Sacoche noire, sacoche jaune. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Eh bien, il y a de quoi voyager une dizaine de jours, là. Je suis parti hier de Redon, j'ai fait une centaine de kilomètres. Et aujourd'hui, ben, on est sur Nantes, là. Et voilà, je vais déposer des courriers qu'on m'a confiés. Eh bien, on va essayer de rentrer dans un EHPAD. Et on doit déposer une lettre à quelqu'un qui y travaille.
On vous suit.
Ah ouais, ben en route.
Alors on traverse la route pour rejoindre une piste cyclable. Je suis Vincent, autant que je peux. Il a pris le large, Vincent, on va le rattraper. Pour un homme lent, il roule vite. Hein.
Ah, ça pourrait bien être ici. 158, c'est là. Allons-y. Voilà, petite lettre pour Isabelle, résidence senior Les Castalis. C'est bien, je ne me suis pas trompé. C'est là.
Alors, qui a écrit cette lettre ?
C'est Dominique. J'ai eu cette lettre à Andard, au nord-est d'Angers.
Les visiteurs sont priés de se présenter à l'accueil.
Madame, bonjour, je suis Vincent Berthelot. Je porte des messages importants et pas urgents qu'on m'a confiés. On m'a confié un courrier pour Isabelle Dumont qui travaille chez vous ici. Elle n'est pas là aujourd'hui. Bon, ben, je repasse demain.
Oui.
Ah, ben, c'est super.
Ça va être sympathique.
Merci pour l'accueil.
À demain.
Au revoir, mesdames. Merci. Donc, c'est raté.
Non. Il y avait une belle rencontre, là. C'était sympa.
Des sourires et tout.
Vous avez le temps.
J'ai le temps. Plus on prend son temps, plus on peut en donner. C'est l'avantage.
On a combien de kilomètres, là, jusqu'à Rezé ?
Bon, je pense qu'il y a 7-8 kilomètres. On y va peinard ? Rezé, on va aller chez Armel et Anne. À bientôt, on y va. Hop. Ok. Au pas savent-ils où ils vont. Les chemins du vent se défont.
Je m'appelle Vincent Berthelot. J'habite à Redon, en Bretagne. Et on m'appelle le facteur humain.
Dans le civil, vous êtes enseignant retraité.
Je suis un retraité de l'éducation nationale.
C'est quoi un facteur humain ?
Au début, j'ai commencé par porter des messages importants, pas urgents, qu'on me confiait. Et ça me dessinait des routes pour voyager en vélo. Et puis, petit à petit, j'ai croisé de plus en plus de personnes, j'ai porté de plus en plus de lettres. Et un jour, quelqu'un m'a appelé le facteur humain.
Ainsi est née l'agence des facteurs humains.
Elle est née un peu plus tard, une fois que l'histoire a commencé à se faire connaître. On était quelques personnes à dire, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose. C'était en 2019. Et puis, il y a eu le confinement et ça a déclenché la création de l'agence des facteurs humains qui n'est qu'un objet poétique. On n'a pas de structure juridique. On est juste une idée. Et aujourd'hui, on est pratiquement 200 facteurs et factrices qui partons chercher des courriers qu'on nous confie, qu'on va chercher en main propre et qu'on va remettre en main propre.
Alors c'est quoi l'idée derrière tout ça ?
C'est un contre-pied. C'est une forme de contre-pied à une société qui voudrait qu'on soit toujours rapide, toujours plus comptable. Là, nous, on compte pas. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On peut se casser le nez, c'est pas grave. On revient un mois après, le lendemain ou dans deux ans. C'est toute la beauté de l'histoire, c'est quand on remet une lettre qui a fait 10, 1000 ou 3 km ou 100, je sais pas, il se passe toujours quelque chose. Parce qu'on a tous des choses à dire. En fait, on est dans un système où ça communique dans tous les sens et dans ce brouhaha, ce qui est essentiel est perdu. On ne l'a pas dit, il n'a pas été entendu, on n'a pas pris le temps de l'écrire ou de le dire. Et tout d'un coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre et prends le temps, tu as quelque chose à dire, tu l'écris. On est à distance, on n'a pas la réaction immédiate de l'autre. Donc on a le temps de fouiller un peu le truc. Et puis après, ça part avec un messager qui porte ça. Et il prend son temps, il va en vélo, il va à pied. Et il transpire, un peu de sueur, un peu de sang, un peu de larmes, c'est pas mal. Et tout ça prend corps, prend du poids, et quand la lettre arrive, elle est tout simplement magnifique, quoi. Et c'est comme si on gravait ça dans le marbre, parce que les kilomètres qu'on a mis dedans, ça fait comme un bloc de marbre qui garde pour l'éternité le message qui a été transmis.
C'est très poétique.
Oui. Entre poétique et politique, il n'y a pas beaucoup de différence.
Vous considérez que c'est politique ? Il y a une démarche aussi revendicative là derrière ?
Oui, quand même. Parce qu'on est dans un monde où il faudrait toujours accélérer, mais cette accélération permanente, il y a quelque chose. Enfin, c'est pas possible. Il y a un moment, c'est plus possible. C'est invivable. Même si on imaginait de traduire ça mathématiquement, on voit bien qu'à un moment, il y a une espèce d'impasse, quoi, c'est sûr. Plus on approche de cette impasse, plus il y en a qui accélèrent et plus il y en a qui s'interrogent.
Et vous, vous êtes dans la deuxième catégorie ?
Bah, j'ai l'impression.
Par où on passe, nous, là ? Il y a un petit pont, là, c'est ça ? Voilà. Sauf desserte, on a droit aux dessertes. Voilà. C'est là.
Vincent, je ne sais pas si on a le cœur qui bat parce qu'on a pédalé 6 km ou si c'est l'émotion.
Est-ce qu'on va donner une lettre ?
Oui.
C'est l'émotion. Là, je ne suis pas attendu, mais bon. Bonjour, je suis bien chez Armel et Anne. Et Anna, oh, c'est... Elle a écrit ça. J'ai une lettre importante, mais pas urgente, qui m'a été confiée à Bushman, ouais. Alors que j'y passais le week-end dernier.
Bonjour, Armel, enchanté.
D'accord, bah j'ai
merci les... pour la lettre. J'ai entendu. C'est choupi, hein.
Choupi.
Ouais, c'est très très choupi. Et étonnant cette manière d'envoyer lettre, mais c'est très cool.
Je peux me permettre,
Armel, bien sûr,
de vous demander qui est la personne qui vous a envoyé
cette lettre. C'est ma maman.
C'est votre maman.
C'est ça. Et c'est drôle, je l'ai eu hier au téléphone pendant une heure et elle m'a rien dit.
Et donc là, c'est une enveloppe jaune qui vous a été délivrée. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a des petites surprises à l'intérieur.
Alors à l'intérieur, il y a une petite carte. Et il y a une petite, un petit sac de graines de tournesol.
Bon, et on ne peut pas savoir ce qu'elle vous a écrit.
Non.
C'est secret, c'est intime.
C'est pas secret, c'est intime.
Et qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors qu'est-ce que ça vous a procuré comme sensation quand vous avez ouvert cette lettre ?
C'est assez émouvant. J'aime bien l'idée et j'aime bien l'échange.
Un facteur qui prend son temps. Ça devient rare.
Un facteur
aujourd'hui.
Qui prend son temps, ça n'existe plus, ouais. C'est la chaleur humaine qui change tout.
Voilà. Armel,
merci,
c'est un bonheur.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci beaucoup.
À bientôt. Youhou.
Alors, c'est quoi la prochaine étape de notre aventure ?
Peut-être qu'on va les manger, là, et puis après, on va aller voir Mathilde, qui doit me confier une lettre en route.
C'est reparti.
Bonjour, Mathilde.
Bonjour, exactement, Vincent.
Ah, bah oui, c'est moi.
Enchanté.
Ah bah moi aussi. Ah bah alors, t'as la lettre.
Exactement.
Oh,
c'est précisément super. Dans mon sac.
Oh, elle est jolie.
Ouais, je me suis appliquée sur l'enveloppe.
D'accord, pour Carnac. La lettre va lentement, hein, t'es prévenue. Hein.
Mathilde, on peut savoir à qui vous écrivez et quel est le sens de votre démarche.
J'écris une amie, donc je vois que quelques fois dans l'année, mais... Voilà, elle m'apporte beaucoup de choses et je me suis dit bah, c'était l'occasion de lui écrire un peu une lettre d'amitié transmise de cette manière-là. Je trouve que ça donnait encore une attention particulière et encore un peu plus de sens au courrier.
Donc cette lettre là, orange, que vous avez entre les mains, Vincent,
ouais.
Elle va un jour partir à Carnac.
Oui, je pense que ça va partir pas si tard que ça. Eh ben, je vais la mettre dans la sacoche jaune.
Et donc la lettre de Mathilde qui rejoint
les
autres.
Et la lettre de Mathilde, elle a trouvé des copines, elles vont discuter toutes les trois.
Eh ben, on va finir ce voyage...
Sur cette belle petite histoire. Et puis, de toute façon, on va se revoir. Parce que le monde est petit, et en plus, il est tout rond, donc au bout d'un moment, on va se croiser.
Mais on ira doucement.
Voilà, mais ça, c'est sûr, on ira doucement. Promis.
Merci beaucoup.
J'ai pris le chemin du vent. J'ai croisé en route.
La France qui ralentit, un reportage de Cécile Bideau. À la prise de son, Bruno Mourlan, Martin Troadec, Florent Layani, Raymond Albouy et Jeffrey Marianne. Réalisation, Gaëtan Colli, assisté de Martine Messonnier. Un reportage à retrouver en images sur le site de France Inter et vous pouvez vous abonner au podcast d'Interception sur l'application Radio France.